Bien, bonsoir. Donc, ce soir, nous accueillons Julie Coppen, qui est professeure de lettres et membre de l'association de l'Appel des Appels. Donc, son sujet, l'enfant être en devenir, quel pari pour l'avenir? C'est une question que nous allons nous poser à l'issue de l'intervention que va nous faire Julie Coppen. Merci à toi.
Donc, bonsoir à tous. En ouverture à cette conférence, je pensais présenter notre association L'Appel des Appels, puisque plusieurs membres d'entre eux vont intervenir donc, sur le thème de cette saison à la Maison Populaire de Montreuil, à savoir « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc en ce qui concerne L'Appel des Appels, cette association est née en décembre 2008, à partir d'une pétition qui a été lancée par Roland Gory et Stéphane Chédry, deux psychanalystes, et qui a été signée tout d'abord par 200 personnalités. Alors pourquoi L'Appel des Appels? Parce que elle regroupait, l'intention était de regrouper plusieurs mouvements qui avaient déjà lancé des pétitions sur Internet, en particulier la Nuit Sécuritaire, RESF, le collectif Liberté, Égalité et Justice, Pas de Zéro de Conduite. Donc la pétition était libellée ainsi. Nous, professionnels du soin, du travail social, de l'éducation, de la justice, de l'information et de la culture, attirant l'attention des pouvoirs publics et de l'opinion sur les conséquences sociales désastreuses des réformes hâtivement mises en place ces derniers temps. À l'université, à l'école, dans les services de soins et de travail social, dans les milieux de la justice, de l'information et de la culture, la souffrance sociale ne cesse de s'accroître. Elle compromet nos métiers et nos missions. Au nom d'une idéologie de l'homme économique, le pouvoir défait et recompose nos métiers et nos missions, en exposant toujours plus les professionnels et les usagers aux lois naturelles du marché. Cette idéologie s'est révélée catastrophique dans le milieu même des affaires dont elle est issue. Et assez rapidement, donc cette pétition a recueilli 80 000 signatures, si bien qu'a été organisée le 31 janvier 2009 au 104 à Paris, un grand rassemblement qui regroupait donc plusieurs professionnels des services publics ou du champ de l'humain et qui ont fait un petit peu un état des lieux des conséquences catastrophiques des réformes actuelles. Et donc c'était regroupé en sous-thèmes: qu'est-ce qui ne va pas dans l'information, dans la culture, dans la justice, dans la prévention et le travail médico-social, dans l'éducation, dans la recherche et l'université, à l'hôpital et dans le soin somatique, dans le soin psychique et la santé mentale. Le 24 février 2009 a été rédigée la charte de l'appel des appels, que vous pouvez trouver sur le site www.appeldesappels.org. Le 22 mars 2009 eut lieu à Montreuil, donc pas loin de la maison populaire, puisque c'était à la parole errante, à la maison de l'art, voilà, un deuxième rassemblement dans lequel les différents professionnels des secteurs ont essayé un petit peu de voir quelle forme de résistance ils ont mis en place. Et parallèlement, des comités locaux se sont créés, donc on a un certain nombre maintenant de comités qui fonctionnent dans toute la France, donc à Marseille, à Rennes, à Strasbourg, à Toulouse, à Agen, Pau, Limoges, Brest, Nancy, et il y en a d'autres qui sont Lille, Nice, Caen, Lyon, et d'autres qui sont en création. Donc au printemps 2009, l'appel des appels s'est constitué en association. Il y a eu une première assemblée générale en octobre 2009, et en novembre 2009, donc, était publié un livre collectif intitulé « L'appel des appels pour une insurrection des consciences » sous la direction de Roland Gory, Barbara Cassin et Christian Laval aux éditions Mille et une nuits. Quelques temps après, des liens sont tissés avec les syndicats, CFDT, CGT, FSU Solidaire, et nous avons eu dernièrement une grande rencontre le 17 novembre, donc à la Bourse du Travail à Paris, sur le thème du travail, et donc ça s'appelait l'amour du métier, et il y avait différents groupes de travail pour réfléchir un petit peu aux transformations du travail à l'heure actuelle. Donc l'appel des appels, dans un premier temps, a cherché à dénoncer les conséquences sociales des réformes désastreuses mises en place au nom de l'idéologie de l'homme économique. Mais par la suite, elle a essayé de penser un peu les transformations de la société à l'heure actuelle, parce que pour elle, finalement, la pensée et l'action vont de pair. Donc il y a eu toute une période où l'appel des appels a essayé de créer des collectifs de réflexion sur ces transformations. Et l'idée aussi de cette association, c'est de rassembler les différents forces vives de la société civile, syndicats, associations, pouvoir public, pour essayer d'amener la société vers une société de solidarité, et non pas de basculer, comme le dit Roland Gori, dans une société de mépris où règne la compétition de tous contre tous et qui entraîne une misère sociale pour la population. Alors je pense que ça fait parfaitement le lien avec la maison de Montreuil, la maison populaire, qui justement cherche elle aussi à créer des liens. Et donc je reviens maintenant sur le thème d'aujourd'hui, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc qui nous invite à réfléchir à notre rapport au temps et à la temporalité dans notre époque. Donc je vais me placer, puisque le principe de l'appel des appels, c'est de regrouper des professionnels des divers champs du service public, alors service public au sens large, hein, toutes les personnes qui travaillent dans le champ humain. Donc je vais me placer de mon point de vue de professeur pour réfléchir sur comment la société envisage le temps de l'enfant actuellement. Et il est assez triste de voir qu'il y a une sorte d'idéologie déterministe qui règne à l'heure actuelle. Et c'est assez paradoxal, puisque le XXe siècle et le développement des sciences physiques avaient un petit peu démontré la relativité de toute chose. Or, on a l'impression maintenant qu'au XXIe siècle et à l'heure actuelle, il y a un retour, une sorte de retour en arrière qui remet en cause cette relativité et qui voit l'homme comme étant déterminé. Donc, alors, d'où ça vient cette forme de retour en arrière? Elle a été beaucoup portée par le cognitivisme et les thérapies comportementales, qui finalement décrètent que tout est biologique et qu'on peut expliquer tous les comportements humains uniquement par façon fonctionnelle dans le corps humain. Ce qui fait totalement l'impasse sur la découverte de l'inconscient par Freud. Donc on n'envisage plus du tout l'homme comme un être sexué tiraillé entre le moi, le ça et le surmoi, comme un être divisé par des conflits internes qui dépendent de son éducation, de son histoire ou d'un contexte événementiel et qu'il exprime à travers le langage. Mais on fait totalement l'impasse là-dessus et on réduit l'homme à ses fonctions purement biologiques. Et par parenthèse, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de psychanalystes et de psychiatres dans l'association L'Appel des Appels, parce qu'ils souhaitent s'opposer à cette idéologie que je qualifie de déterministe. Et il y a aussi le perfectionnement des techniques de l'IRM qui permet d'obtenir des clichés de plus en plus précis du cerveau. Alors bien sûr, auxquels on peut rendre hommage, parce que probablement ça rendra de grands services à la science. Mais actuellement, il y a aussi une idéologie qui s'appuie sur ces découvertes pour dire qu'il y a des relations de cause à effet, que tout est biologique et qu'on peut expliquer le mal-être de l'être humain et les troubles du comportement par des anomalies du cerveau. Et ce qui est proposé comme remède, entre guillemets, c'est soit la prise de psychotropes, soit la rééducation des comportements. Donc maintenant, je vais voir un petit peu quelles sont les conséquences de cette idéologie. Alors la première cristallisation de ces théories déterministes, elle est apparue fin 2005, lorsque l'INSERM, dans un rapport intitulé « Troubles des conduites chez l'enfant et l'adolescent », établit une corrélation entre les difficultés psychiques de l'enfant et une évolution vers la délinquance, tout en préconisant un dépistage des troubles de conduite dès le plus jeune âge. Pardon. Donc, pour s'opposer à cela, en janvier 2006, un certain nombre de pédopsychiatres, psychologues et psychanalystes, médecins du champ de l'enfance, lancent un appel « Pas de zéro conduite pour les enfants de 3 ans ». Et donc, qui a tenu plusieurs colloques, dont le dernier a eu lieu à la mutualité au mois de juin et qui était intitulé « Les enfants au carré, une prévention qui ne tourne pas rond ». Prévention, éducation plutôt que prédiction et conditionnement. Donc parmi les personnes qui participent à Pas de zéro de conduite, il y a Sylviane Jeanpineau et Catherine Vidal qui ont écrit un livre dont je vais montrer la couverture. Donc « Nos enfants sous haute surveillance ». Donc je vais remontrer la couverture du livre. Pour cliquer, c'est à quel endroit? Excuse-moi.
C'est au même endroit, sauf que tu fais deux fois.
C'est sur la
derrière.
Non, c'est pas la bonne.
Oui, je veux bien ton aide.
Oui, parce que là, c'est vrai que des fois.
Parce que j'ai pas l'habitude du Mac, donc au niveau des fonctions.
Pas de souci.
Nos enfants sous haute surveillance, c'est le dernier. Voilà, ça y est, la couverture du livre apparaît. Donc, Sylviane Jeanpineau, elle est psychanalyste, Catherine Vidal, neurobiologiste, et donc elles ont écrit un livre qui s'appelle Nos enfants sous haute surveillance, évaluation, dépistage, médicaments, dans lequel justement elle retrace les tenants et aboutissants de cette idéologie. Alors je ne vais pas reprendre tout le livre, ça serait trop long, mais ce qu'elle montre et qui est très intéressant par rapport à l'IRM notamment, c'est que donc il y a un chapitre de leur livre qui s'appelle « Tous pareils, tous différents » où elles expliquent que finalement on a tous le même cerveau, mais que par la suite le cerveau a ce qu'on appelle une plasticité, c'est-à-dire qu'il s'adapte un peu aux stimulations environnementales, il y a l'éducation, au milieu socioculturel, etc. Donc on ne peut pas du tout dire que tout est biologique et que ça marche pareil pour tout le monde. Donc dans le cerveau, il y a les mêmes attributs, mais après, la plasticité fait que on évolue chacun différemment. Donc ces deux personnes qui font partie du collectif Pas de zéro de conduite montrent bien qu'on ne peut absolument pas prédire quoi que ce soit du devenir des enfants. Et j'en profite pour dire, parce que c'est vraiment d'actualité, que le collectif Pas de zéro conduite a de nouveau publié un communiqué lorsque M. Jean-Marie Bockel, donc secrétaire d'État à la justice, a de nouveau préconisé le dépistage précoce des enfants en vue de deviner s'ils peuvent devenir ou pas des futurs délinquants. Et donc ils ont demandé solennellement au président de la République et au gouvernement d'abandonner définitivement cet amalgame entre les difficultés psychologiques durant l'enfance et la prédiction d'un avenir délinquant. Et ceci pour trois raisons. Cet amalgame ne repose sur aucune preuve scientifique. Cet amalgame constitue un véritable dérapage idéologique et cet amalgame est enfin fortement pathogène pour les enfants et leurs familles. Donc, dans le monde de l'éducation, qui me touche d'un peu plus près, cet aspect déterministe pourrait intervenir dans le fait que maintenant, donc tout ce qui est note, appréciation, orientation, qui était autrefois sur papier ou bien sous forme numérique, mais dans des logiciels qui restaient donc dans les établissements, maintenant tout ça passe sur Internet. Avec des connexions possibles, c'est la loi de la prévention sur la délinquance, donc avec la mairie de la commune, hein, voire peut-être plus tard Pôle emploi si besoin, enfin, des commissariats de police ou peut-être Pôle emploi éventuellement pour le suivi des élèves dits décrocheurs. Donc sous couvert de modernisation, c'est quand même un très grand changement. Et on peut se poser la question, à partir du moment où c'est enregistré, où les données sont fixées, ben pour l'enfant, quand même, d'une certaine manière, on lui colle une étiquette qui reste, hein, scripta manent, comme on dit en latin, hein, les écritures restent. Et donc ça, c'est assez problématique. Parce que bah, ça fixe l'enfant dans un temps T, enfin, quelque part il y a une trace, et on peut se demander justement si ça ne nuit pas ou ça lui empêche d'avoir le droit d'évoluer quelque part. Hein. Donc il y a le collectif national de résistance à bas élèves qui s'est constitué le 10 novembre 2008, qui est très actif et donc qui ne cesse de réclamer. Qu'au moins les données soient cryptées, c'est-à-dire que si, tout en reconnaissant le besoin de gestion de l'éducation nationale, qu'on protège quand même la vie privée des enfants en cryptant les données. Donc si on veut faire des statistiques, etc., on peut récupérer tous ces chiffres, mais que ce ne soit pas associé à un nom d'enfant. Donc, bon, le CNRBE a lancé des recours devant le Conseil d'État notamment, et dernièrement, donc le Conseil d'État a rétabli le droit d'opposition des parents. Donc, en principe, maintenant, les parents peuvent s'opposer au recueil des informations sur leurs parents, mais c'est encore, disons que le ministère ne l'applique pas, ou quand les parents demandent à s'opposent au recueil des informations, souvent on reçoit une lettre disant que c'est pas possible de le faire. Donc bon, on est un peu dans une transition. Donc ça, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle le fichage des élèves en général, dont on entend beaucoup parler. Mais il y a un autre aspect aussi du déterminisme, c'est le fait de vouloir, comment dire, régenter ou surveiller les comportements des élèves. Et donc il y a la note de vie scolaire, par exemple, en 2006, c'est une nouvelle note qui est apparue dans les moyennes. Et il s'agit en fait de noter le comportement des élèves proportionnellement au nombre de sanctions qu'ils ont eues. Donc ça, c'était déjà un indice. Et par la suite, donc dans le nouveau livret de compétences, donc qui est un livret qui décline un certain nombre d'items que les élèves de troisième devront valider avec le brevet, en fait. Donc il est dans ce livret de compétences, il est décliné en plusieurs domaines. Et dans la dernière compétence, je vais vous la montrer maintenant. Alors, je vous montre la couverture du livret de compétences. Si elle veut bien s'ouvrir.
Tu cliques une fois sur le clavier. T'appuies.
Peut-être que je déplace le curseur. Voilà.
Double-clic.
Voilà. Donc je vous montre le livret. Hein, donc l'évaluation des élèves en compétences, c'était essentiellement à l'école primaire. Et maintenant, donc C'est arrivé au collège et cette année, donc les élèves, pour avoir le brevet, doivent valider, donc en même temps qu'ils passent l'examen, ils doivent avoir validé un certain nombre de compétences. Donc, par parenthèse, la compétence, c'est une nouveauté dans le discours pédagogique. Personnellement, je pense que ça peut être intéressant dans le sens où, comme tous les courants pédagogiques, on peut peut-être s'en servir pour réfléchir et trouver des nouveaux moyens de transmettre les connaissances. Donc, ça fait un petit peu débat en ce moment, la compétence. Certaines personnes disant que c'est une utilisation utilitaire du savoir, d'autres disant que non, au contraire, ça peut permettre à l'élève de donner du sens à ses apprentissages. Donc il y a un débat qui est très intéressant à mon avis à ce sujet, et assez ouvert. Moi je pense que c'est une évolution de la pédagogie, donc on peut s'en emparer peut-être pour réfléchir et innover, inventer, trouver des nouveaux moyens de transmettre les connaissances. Bon, ce qui m'ennuie davantage, c'est plutôt la forme que ça prend. Donc je vais vous montrer en particulier la compétence 6 dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ferme. Je vais devenir très habile. Donc je vais agrandir un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Que j'agrandisse un peu par là. Voilà.
Tu peux encore grossir là, peut-être plus.
Ah.
C'est pas grave, clique dessus. Sur le document.
Le souffle.
Voilà, clique dessus. Plus. Puis tu mets la loupe, peut-être plus.
Et je zoome un peu.
D'accord. Je vois rien de plus.
Essayer de remonter maintenant un peu. Voilà, on va y arriver. Voilà. Alors, je cherche plus particulièrement une des compétences dans lesquelles. Donc, voilà, donc il y a la compétence 6. Hein, je remonte l'ascenseur. Voilà, qui s'appelle les compétences sociale et civique, bon, qui est déclinée en items, donc connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale, principes aux droits de l'homme, valeurs, symboles, institutions. Alors avoir un comportement responsable, respecter les règles de la vie collective. Donc, ce qui m'ennuie un peu dans cet item-là, c'est que par expérience, de professeurs, bien souvent ce dont on se rend compte, c'est que par essence, les élèves ils transgressent les règles de la vie en collectivité, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas les apprendre, et c'est même comme ça qu'ils les apprennent. Donc justement, respecter les règles de la vie collective, voilà, ça me pose problème dans le sens où ça simplifie un processus, une évolution de l'élève. Voilà, donc on a comme ça avec le livret de compétences, on décline toutes sortes d'aptitudes, mais certaines sont finalement assez complexes et il faudrait prendre en compte les progrès de l'élève. Et donc ça simplifie énormément les attitudes des élèves, c'est ce qui me gêne un peu. Donc sur la compétence, je pense qu'on peut en discuter, et ça peut être une idée pour rebondir et réfléchir à la transmission des savoirs. Maintenant, la présentation sous forme de grille, je trouve que ça enferme quand même beaucoup l'élève, et si en plus ça va être informatisé et gardé quelque part, bon, comme je l'ai dit,
la réponse est oui, non. C'est quoi, comment vous remplissez, c'est qui remplit cette grille?
Alors, c'est en cours d'élaboration, donc j'ai pas encore toutes les précisions. Donc, même au niveau hiérarchique, il y a certaines choses qui sont pas encore très claires. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est que chaque item est noté sur 4, avec le choix entre 4 sur 4, 3 sur 4, 2 sur 4 et 1 sur 4. Et en plus de ça, chaque établissement est amené à se déterminer sur l'organisation. Donc, combien de pourcentage on valide, à quel pourcentage l'élève obtient le livret, etc. Tout ça, c'est pas harmonisé. Donc, peut-être d'un établissement à l'autre, ce sera pas la même chose. Enfin, bon, pour l'instant, ça pose quand même un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été résolus. Voilà, et je voulais, pour terminer cette partie qui présentait un peu le déterminisme et puis comment elle apparaît dans la société actuelle, citer Freinet qui disait « Nous ne sommes pas des fanatiques d'une méthode, nous sommes avant tout des praticiens qui travaillons sans idée préconçue contre telle technique, telle ou telle méthode. Nous décortiquons tout verbalisme, nous luttons contre la scolastique, nous tâchons de redonner à l'effort des enfants ses composants, et ses buts naturels et humains. Nous nous plaçons hardiment face à des problèmes essentiels de l'intérêt, de l'expression, de l'acquisition, de la formation et de l'effort. » Hein, donc, il ne faudrait pas oublier quand même un des buts, j'y reviendrai après, mais de la formation de l'enfant ou de l'enseignement, hein, c'est la vie en société, son épanouissement personnel et le fait qu'il acquiert un certain nombre de connaissances. Hein, donc, il ne faudrait pas rentrer non plus dans des choses trop dogmatiques et le livret de compétences m'apparaît paraît figé un petit peu dogmatiquement comme ça l'enfant. Voilà. Donc, et les psychanalystes disent aussi que si on fixe trop l'enfant sur des choses négatives, ça peut avoir un effet pathogène parce que il le prend à son compte. Et du coup, c'est pour ça que toutes ces directives par rapport à la loi de prévention de la délinquance, c'est embêtant parce que finalement, on dit cet enfant risque de devenir un délinquant, mais finalement, on lui met une étiquette et il risque de le devenir par la peur qu'on a eue qu'il le devienne. Hein, et ça, ça s'appelle l'effet Pygmalion. Ça a été, tous les psychologues, les psychanalystes, pédopsychiatres le disent. Hein, donc c'est assez dangereux d'enfermer l'enfant dans des grilles ou dans un comportementé ou lui coller une étiquette en disant il est comme ceci ou comme cela. Parce que ça lui ferme quand même les portes de l'avenir. Hein, et l'enfant... on sait bien que nous-mêmes adultes, on n'a pas fini notre évolution, et heureusement, et d'autant plus pour les enfants qui sont en constante évolution permanente. Donc ce déterminisme, ça interroge le rapport au temps de l'enfant. Donc là, je reviens un petit peu à la maxime « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et j'ai envie de dire que c'est l'enfant, sans doute, si rien ne se perd, tout se crée et tout se transforme. Hein. L'enfant est dans la recherche permanente de la création de lui-même et de sa relation aux autres. Et comme dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Hein, donc c'est Bergson dans la pensée et le mouvement qui avait distingué le temps subjectif et le temps objectif, en soulignant que le temps subjectif de l'individu était rarement pris en compte, puisque différent d'une personne à l'autre, il était donc inutile socialement. Il peut être nuisible aussi, puisque C'est sûr que si tout le monde suit son rythme intérieur, ça va être difficile de se retrouver au même endroit à la même heure. Hein, donc forcément, si on veut avoir des relations sociales, il faut un petit peu le mettre en veille. Et dans l'économie, Bergson dit que c'est gênant, ce temps subjectif, parce qu'il s'oppose à la régularité, à l'exactitude nécessaire, à la rentabilité. Or, on constate qu'on est dans une société néolibérale qui, justement, a tendance à exiger des enfants le même statut que celui des adultes. On le voit notamment avec la loi sur la justice des mineurs qui s'aligne de plus en plus sur celle des majeurs. Or, il me semble que si, bon, pour les adultes, le temps subjectif est davantage à mettre en veille, il me semble que pour les enfants, dans l'éducation, il faut quand même lui accorder une assez grande place. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui apprendre la socialisation, mais je pense que c'est un temps privilégié de l'enfance et on a à lui accorder sa place. Hein. Donc, en particulier pour l'assimilation des connaissances, il ne faut pas oublier que c'est apprendre, c'est l'aboutissement de processus complexes qui mettent en jeu l'affectif, la socialisation, le cognitif, et que ça prend du temps. Hein. Donc, parfois, les enfants ont l'air de faire des choses qui ne sont pas, entre guillemets, rentables, dessinées, mais en fait, ils mobilisent leurs connaissances ou leurs capacités pour réaliser d'autres tâches. Donc un enfant peut faire en fin de journée un dessin en classe parce qu'il est fatigué, ce qui l'aidera sans doute à résoudre le lendemain son problème de géométrie. Hein, donc on ne peut pas lui demander une performance, puisque c'est un mot à la mode, égale à celle des adultes. Donc ce temps subjectif est vraiment à prendre en compte chez l'enfant, à mon avis. En ce qui concerne l'opposition que j'avais présentée au début entre relativité et puis déterminisme, je pensais faire un petit détour par la philosophie, puisque finalement, cette question du le fait de savoir si l'homme est déterminé ou bien si on doit laisser place au hasard, ça a quand même interrogé les anciens. Je vais m'intéresser à l'Antiquité et puis à l'époque moderne. Donc, Héraclite disait dans l'Antiquité que le temps est un enfant qui joue au tric-trac, royauté d'un enfant, dans le fragment 52. Donc pour lui, le temps est capricieux, il joue pour son propre plaisir avec des pions, sans autre finalité que celle du jeu en dehors de toute considération morale ou téléologique, c'est-à-dire sans finalité. Donc il s'impose à nous, que nous l'acceptions ou que nous le refusions. Platon, dans le Protagoras, disait que dans le monde des idées, hein, dans le cosmos, il y a une régularité et une éternité, alors que sur Terre, il y a une incessante dispersion des choses, on n'est sûr de rien, avec à terme la mort. Et Aristote, dans Éthique à Nicomaque, lui a répondu, répondu à ça, en disant que si le temps du cosmos est régi par un ordre, et si par contre les choses sur Terre n'arrivent pas régulièrement, mais au contraire, ça laisse une certaine liberté à l'homme, puisque hein, tout est prévisible et le hasard a sa place. Hein. Donc déjà, sur ces questions de déterminisme, de place au hasard, l'Antiquité grecque avait déjà réfléchi là-dessus.
Qui a répondu ça, sur le hasard, hein, qui a...
Aristote.
C'est Aristote.
Aristote, oui, j'ai oublié de le dire. Aristote dans Éthique à Nicomaque. Hein, voilà. Il répondait à Platon, disant que justement, les choses n'arrivent pas avec exactitude dans le monde terrestre, ça laisse place au hasard. Je fais un bond à l'époque moderne, donc j'entends par époque moderne partir de la Révolution française. Donc là, le concept de déterminisme, bon, il a été élaboré avant la Révolution française, hein, par les philosophes du XVIIe siècle, et il posait l'existence de lois cachées qui constituaient la base du principe d'explication des apparences et des phénomènes. Ça a été repris par Laplace dans ses essais philosophiques sur la probabilité au XVIIIe siècle. Et lui, il disait que si l'on admet que la nature obéit à des lois immuables, alors une intelligence qui connaîtrait ces lois ainsi que l'état présent de l'univers dans ses moindres détails serait capable de calculer avec une précision infinie tous ses états futurs. Rien ne serait incertain pour elle et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Ensuite, au XIXe siècle, donc il y a Claude Bernard qui a apporté le concept de déterminisme expérimental. D'ailleurs, Zola s'en est inspiré pour ses romans comme L'Assommoir, où il a montré l'hérédité, enfin, l'alcoolisme, le rôle de l'hérédité dans l'alcoolisme. Donc, dans l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, il écrit ceci: il faut admettre comme un axiome expérimental que chez les êtres vivants, aussi bien que dans les corps bruts, les conditions d'existence de tout phénomène sont déterminées de manière absolue. Si la condition d'un phénomène est connue et remplie, alors le phénomène doit se produire. Donc on a un 18e, un 19e siècle assez ancré dans le déterminisme, ce qui n'empêche pas la créativité et l'invention. C'est un peu un des paradoxes du 19e, notamment chez Zola. Donc j'ai parlé de l'assommoir, mais quand il décrit l'alambic qui fabrique l'alcool, on a comme ça, il le décrit comme un être un peu fantastique. Donc on a une cohabitation, ça c'est une parenthèse, d'une grande rationalité avec une invention par l'art, hein, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Au XXe siècle, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais la mécanique quantique donc apporte la preuve que seules des prévisions de type probabiliste peuvent être établies. Donc là, on a une opposition, une grande opposition au déterminisme, hein, et puis on va retrouver ça avec Einstein, la théorie de la relativité, etc. Hein, donc c'est Ilya Prigogine, donc c'est qui a eu le prix Nobel, c'est un chimiste, hein, il a obtenu le prix Nobel de chimie en 1977. Il a écrit un livre, La fin des certitudes, en 1995, et il a écrit: notre prévision du futur a changé de signification, elle ne se rapporte plus à un univers donné mais à un monde en construction dans lequel de nouvelles structures peuvent émerger. Nous devons retenir cet élément d'inventivité et de créativité dans toute projection du présent vers l'avenir. Hein, donc le XXe siècle entérine bien la relativité. Et alors, curieusement, notre début du XXIe semble revenir à une forme de déterminisme, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai essayé de m'interroger pourquoi ce retour, cette forme de déterminisme. Donc il me semble que c'est, de manière générale, il y a un rapport inquiet à soi et au monde, et le fait que le temps soit irréversible et que l'horizon de notre temps, bien, c'est la mort, hein, ça nous met face à une réalité assez troublante et qui est celle de... qui est le propre de notre condition humaine. Et donc l'homme aimerait que la science, justement, apporte des réponses et soit capable de tout prévoir, de tout savoir de la condition humaine, ce qui est bien sûr absolument pas possible, hein. Donc ce que l'homme doit admettre, c'est, comme dirait Roland Gori, le tragique de sa condition. Et donc vouloir que l'enfant soit transparent à lui-même et aussi à nous les adultes, il y a quelque chose de l'ordre de l'orgueil ou du péché d'hubris, comme diraient les Grecs, hein. Donc C'est pour cela qu'il me semble que respecter finalement le mystère de l'enfant et en n'essayant pas de décortiquer absolument ce qu'il y a dans son cerveau, c'est quand même respecter notre propre condition humaine et se faire humble devant elle. Et Hegel disait, il n'y a de temps que dans la mesure où il y a histoire, c'est-à-dire une existence humaine, l'homme est dans le temps et le temps n'existe pas en dehors de l'homme. L'homme avec un grand H est donc le temps avec un grand T et le temps avec un grand T est donc l'homme avec un grand H. Donc, indissociabilité du temps et de l'homme pour Hegel. Donc voilà, le fond hein, de ce déterminisme, c'est la peur sans doute de la mort que l'homme aimerait domestiquer en disant bah, si on peut tout prévoir, peut-être qu'on arrivera à aller contre la mort. Or, ça fait partie de notre condition humaine. Donc maintenant, en ce qui concerne le temps de l'enfant, je vais maintenant m'intéresser à l'enfant donc dans ses apprentissages et voir justement comment on peut à la fois accorder une place au temps subjectif et de l'enfant et prendre en compte aussi son évolution. Hein, ce qui me paraît quand même très important pour lui permettre de grandir et ne pas le figer dans un déterminisme mortifère. Donc pour cela, je me suis appuyée sur un ouvrage de Philippe Lacadé qui est psychiatre et psychanalyste et donc qui a écrit Le malentendu de l'enfant. Donc je vais montrer la couverture. Ah, c'est reparti.
Éteins l'autre. Oui. Okay, voilà.
J'agrandis en bas. Mmh. Oui. Voilà. Mmh. Donc Philippe Lacadé s'appuie sur les recherches de Lacan et sur ce que Lacan appelle le traumatisme. Alors j'en parle parce que moi je suis professeure au collège et donc j'ai affaire à des adolescents et donc dans le temps de l'enfant et de la subjectivité à prendre en compte, c'est sûr qu'il y a les modifications du corps qui entrent en jeu et le surgissement de la sexualité et il me semble que c'est un élément à prendre en compte. Donc le livre de Philippe Lacadé m'a éclairée là-dessus. Donc il parle du concept de Lacan qu'il appelle le traumatisme. Il dit que pour les adolescents, donc le surgissement de la sexualité est comme une tuquée, une surprise qui crée un trou dans le savoir, d'où le mot traumatisme. Hein, la libido échappe à tout entendement et renvoie le sujet à sa solitude et au sentiment d'être incompris de l'autre. D'où le développement de l'enfant va reposer sur des arrangements particuliers que celui-ci va trouver pour organiser son existence, son rapport au monde et son rapport à la jouissance. Et donc Philippe Lacadé insiste bien sur le fait que le langage, la lecture et la pratique de la conversation sont à ce moment-là fondamentaux puisqu'ils offrent dans les mots une place au désir de l'enfant creusée dans le désir de l'adulte. Et j'aimerais citer René Char et reprendre une citation que Roland Gory aime beaucoup. Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Donc finalement, dans la transmission des connaissances, en faisant une place à la conversation, on aide aussi les enfants à grandir, même si au départ, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire et ce que ça va leur apporter, ce qu'ils vont en dire. Voilà, donc je pensais qu'il était important de ne pas négliger ça quand on est enseignant et donc quand on s'occupe des enfants. Donc, par rapport à ça, il me semble que l'enseignement combine trois objectifs hein, qui sont étroitement liés les uns aux autres. Donc le développement de l'enfant sur le plan psycho-affectif, son épanouissement, la transmission des connaissances bien sûr, et puis la socialisation. Il me semble que ces trois aspects sont extrêmement imbriqués. Alors bien sûr, si j'accorde toute sa place à la transmission des connaissances, qui me paraît très important, puisque finalement on a hérité des connaissances du passé des hommes qui nous ont précédés, donc on va les transmettre aux générations futures, hein, ça me paraît très important. Il me semble aussi que la conversation est à la fois un moyen de transmettre des connaissances, mais aussi de prendre en compte justement ce temps subjectif de l'enfant. Et dans les littératures pédagogiques, on parle beaucoup de transmission des connaissances, de socialisation, qui sont fondamentales bien entendu, mais peut-être un peu moins justement du développement de l'enfant, son épanouissement. Et il me semble que les trois sont extrêmement imbriqués et qu'il ne faut pas délaisser l'un au profit de l'autre finalement. Or, on remarque qu'actuellement, il y a quand même une pression qui s'exerce sur les élèves avec un esprit de compétition. J'ai été frappée récemment par le retour du classement sur les bulletins scolaires. Les derniers bulletins qui sont édités par le logiciel Sconet, on retrouve l'ordre, le rang des élèves dans la classe. Donc ça m'a assez frappée. Donc on est dans une logique très exigeante pour les enfants. On leur dit, j'utilise une comparaison, mais sportive, on place la barre à 2 mètres de hauteur et on leur dit, voilà, il faut que tu atteignes ces 2 mètres pour réussir. Or, il me semble que d'une part, c'est nier le temps de l'enfant, comme je l'ai dit, et moi j'envisage les choses tout à fait autrement. Il me semble que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire, c'est-à-dire accueillir l'élève à la rentrée de 6e, hein, avec ses forces et faiblesses, lui dire voilà, tu as tel ou tel niveau en orthographe, grammaire, etc. On va faire un bout de je t'accueille comme tu es, on va faire un bout de chemin ensemble, et voyons voir à la fin du cycle de collège quels sont les progrès que tu auras fait et comment tu te sentiras mieux, est-ce que tu arrives à mieux te comporter dans la classe, socialement, etc. Hein, donc, dans les conseils de classe, on fait le bilan des progrès effectués et on le traduit quantitativement par les notes et les moyennes. Mais j'ai envie de souligner qu'il y a tout un tas de progrès des enfants qui ne sont absolument pas mesurables quantitativement. Hein. Et très souvent, les élèves progressent hein, sur les 4 ans. Donc, je prends l'exemple du collège parce que je suis professeure en collège, mais je pense qu'il faut leur laisser le temps. Il faut accepter que l'enfant ne soit pas tout le temps performant, parce que comme tout le monde, il a des passages à vide. Des fois, il revient en arrière, on a l'impression qu'il régresse, mais en fait, ça peut être pour, quelque temps après, faire de grands progrès. Alors, si on voit qu'un élève il est trop enfermé dans une impasse, effectivement, on peut faire appel à des infirmières, à des médecins scolaires, des conseillers d'orientation, des psychologues ou des assistantes sociales, bon, qu'ils le prennent en charge. Et des fois, il suffit de peu pour qu'ils rebondissent. Hein, alors, il y a d'autres enfants qui ont besoin d'un suivi plus long, mais il me semble que on doit respecter les retours en arrière des enfants et le fait qu'ils n'avancent pas de façon linéaire. Et comme je l'ai dit, très souvent, ça ne peut pas se traduire par des chiffres. Hein, donc on est une société néolibérale qui fonctionne beaucoup par les chiffres. On a aussi nos établissements nous demandent maintenant des performances chiffrées, etc. Ça me paraît en contradiction avec la mesure de progrès de certains élèves qui ne sont pas du tout mesurables quantitativement. Enfin, un élève qui va être plus sociabilisé, qui va davantage s'intéresser en classe, on ne peut pas le traduire en chiffres. Donc là, je livrais un petit peu ma vision de l'école par rapport à la prise en compte du temps de l'enfant. Et dans ma pratique professionnelle, je fais un atelier de slam. Donc le slam, c'est une écriture et une expression libre de textes poétiques. Et j'aime bien cette pratique parce que justement, je trouve que ça allie assez bien les trois objectifs que j'ai nommés tout à l'heure, à savoir la transmission des connaissances, la socialisation et puis l'épanouissement de soi. Hein, donc pour ceux qui connaissent pas le slam, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en général, il s'agit de produire un texte libre sur un thème donné et ensuite les enfants viennent le performer, comme on dit. Donc ils se mettent debout devant leurs camarades et puis donc, ils disent le texte qu'ils ont produit. Donc en général il y a un support qui est donné, donc c'est souvent animé par des slameurs, c'est des collectifs de slameurs qui font ça, donc ils viennent avec des textes sur le thème de la liberté par exemple, donc ils vont donner un texte de Paul Éluard mais aussi un texte de chanson, etc. Donc il y a un petit débat qui s'amorce avec les élèves sur le thème de la liberté. Et puis, comme ça, ça leur donne des idées. Et ensuite, bah, ils écrivent librement leur texte. Et donc, je trouve cet exercice très intéressant parce que justement, ça combine plusieurs choses. Alors, ça permet bien sûr aux élèves de maîtriser la langue française parce qu'ils corrigent leur texte, ils cherchent dans le dictionnaire. Donc, il y a tout un travail sur la langue, sur l'expression orale, bien sûr, parce qu'ils viennent... Hein, ils viennent dire leur texte devant les autres. Il y a le vivre ensemble, puisque ben, ils doivent écouter la parole de l'autre et être écoutés à leur tour. Et il y a aussi cet espace qui leur est donné, donc de créer, d'inventer, et finalement, en écrivant, de se connaître soi-même. Hein, le gnotis eoton, hein, de Socrate, hein, se connaître soi-même. Donc finalement, il y a ce temps qui leur est donné. Hein, et il me semble que dans les pratiques éducatives, si on peut à des moments offrir comme ça des espaces de liberté aux enfants et de prise en compte de leur temps où ils s'arrêtent un petit peu pour penser à eux, hein, ça les aide d'autant plus après à avancer. Et à intégrer des connaissances, finalement. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas d'élèves en difficulté scolaire, parce que je pense que la mission première de l'enseignant, c'est de redonner le plaisir d'apprendre. Et je pense que tous les élèves sont capables de réussir, seulement il faut chercher un petit peu ensemble avec eux quelles sont leurs forces et leur donner la parole. Voilà. Donc il faut reconnaître la place de l'enfant au sein du groupe classe, essayer de mettre au jour leur potentiel et respecter leur temps intérieur. Hein. Donc de cette manière, on parie sur l'inconnu de l'enfant, hein, sur son mystère, on parie sur ce qui n'a pas encore émergé, mais qui est là, c'est sûr, et qui émergera plus tard, et même quand on aura perdu de vue cet élève-là. Donc, il me semble très important, hein, de ne pas figer l'enfant dans un déterminisme et de lui ménager des possibilités, de lui accorder l'expression de son temps subjectif dans les activités scolaires. Donc en conclusion, je dirais que contre l'idéologie de l'homme économique qui broie l'être humain au nom de la rentabilité, donc l'association L'Appel des Appels entend replacer l'humanité au cœur des métiers, et cela passe par la prise en compte du temps humain qui qui n'est pas linéaire, mais tantôt procède par détours, tantôt semble se figer, mais qui est en réalité la condition nécessaire de l'élaboration et de la création. Dans l'enseignement et dans tous les métiers où les professionnels prennent en charge des enfants, il est bon de rappeler que le temps de l'enfant n'est pas celui de l'adulte et que si l'on comprend que pour les enfants, il est nécessaire pour faire société de mettre en veille le temps subjectif, au contraire, chez les enfants, on doit lui accorder toute sa place. Et je reprendrai une fonction de l'éducation selon Hannah Arendt dans la crise de la culture, dans la crise de l'éducation. Pour elle, il s'agit à la fois de protéger les enfants du monde extérieur, mais en même temps de les préparer aussi à ce monde extérieur. L'école représente le monde, bien qu'elle ne soit pas vraiment. Les adultes responsables de l'enfant ont pour responsabilité d'assurer ce qu'on appelle le libre épanouissement des qualités et des dons caractéristiques, tout en leur apprenant peu à peu l'habitude de travailler au lieu de jouer. Donc à la fois respecter leur temps d'enfant, l'envie du jeu, mais en même temps les préparer à la vie d'adulte en leur apprenant peu à peu à ne plus jouer, mais à travailler. Voilà, je vous remercie.
Merci.